La musique est de retour.
Salut à tous et salut à toutes.
Oh.
Bienvenue à ce Musicorama assez génial.
Console, take snap, hold up, take snap.
Oh, ok, vous ne faites pas l'erreur. Vous êtes bien connecté sur la radio sans concession.
Now in darkness, world stops turning. Ashes where the body's burning.
L'attitude actuelle commence à me polluer ferme. Ce qui n'était que provisoire s'est installé à long terme.
Radio provisoire.
Hello. Turn on the radio.
I'm talking to you. I'm talking to you.
You're being grotesque.
It's pretty late.
Why don't you switch on the radio?
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Décibel que vous pouvez retrouver du lundi au vendredi de 18h30 à 19h sur votre radio associative libre sans pub radio PFM. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet de la radio www.radiopfm.com. C'est Honorine aujourd'hui pour vous proposer cette émission et je suis accompagnée par Jean-François. Salut Jean-François.
Salut Honorine, chers auditeurs, bonsoir.
Au programme de cette émission, je vous proposerai une lecture théâtrale par la troupe Atrébat Théâtre qui nous interprétera la répétition de Maupassant dans le cadre de Plaisir de lire. Je vous proposerai également un morceau de Real Man par l'artiste Desmond Myers. Et pour commencer cette émission, Jean-François, tu vas nous proposer une chronique hiver.
Les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon. Bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton. Mais je vous ai apporté des bonbons.
Jean-François, tu vas nous parler aujourd'hui de la trêve des confiseurs.
Il est vrai que cette période entre Noël et Nouvel An est très souvent appelée la trêve des confiseurs. Alors d'où vient cette expression ? Eh bien, il faut savoir que pendant les fêtes de fin d'année, le ralentissement de l'activité politique, boursière mais également sportive est parfois appelé la trêve des confiseurs. Cette expression remonte à la seconde moitié du 19e siècle. Où elle est née après de très vifs débats à l'Assemblée nationale. Les hommes politiques de la Troisième République avaient alors décidé d'interrompre ces séances mouvementées pendant le mois de décembre afin de ne pas troubler l'activité économique, comme certains le précisaient. Ils étaient alors prêts à tout pour favoriser le commerce, car on se souvient que dans les années 1870, la France se relevait à peine de la guerre franco-prussienne. Cette pause a néanmoins été moquée par la presse satirique de l'époque qui estimait que cette trêve hivernale était surtout bénéfique pour les producteurs de confiseries dont les ventes explosent particulièrement en cette fin d'année. On en est effectivement tous friands, notamment à Noël. La trêve des confiseurs a ensuite perduré et puis s'étend généralement aller effectivement entre Noël et Nouvel An.
Merci Jean-François pour cette chronique hiver. On est toujours dans cette émission Décibel. Je vous propose un extrait de l'artiste Desmond Myers qui va sortir un EP courant 2021. Je vous propose d'abord un extrait qui s'intitule Real Man.
Thank you.
talk a lot. I don't have to say too much. I'm okay with everything. I don't have a preference. Nothing ever gets me down. I keep it close, don't spread it around. Nothing ever gets me down, even when you're not around. 'Cause I'm a real man. You could never know me, even if you tried.
Damond Meyer, c'est le titre Real Man qu'on pourra retrouver sur un EP qui sortira en 2021. On est toujours dans cette émission Décibel. Je vous propose une pièce radiophonique proposée par la troupe de théâtre Atrébat Théâtre. Il nous propose la répétition de Maupassant dans le cadre de petite scénette qui s'intitule Plaisir de lire. De lire, émission proposant des textes de théâtre d'auteurs contemporains ou non, proposés par la troupe Atrébat Théâtre. Aujourd'hui,
une répétition de Guy de Maupassant interprétée par Atrébat Théâtre avec
Maxence,
Lily,
Mickaël,
Jean-François.
Un salon. Porte au fond et à droite, Madame d'Estournel, habillée en bergère, Watteau arrange sa coiffure devant la glace.
Madame, mais qu'est-ce donc cette mascarade ? Je comprends, vous allez jouer quelques charades.
Vous l'avez dit, monsieur.
Le costume est charmant. Vous êtes adorable en cet accoutrement.
Fi donc, des compliments. Mais je suis votre femme, à quoi bon ?
La réplique est cruelle, madame. Je dis la vérité simple. C'est mon devoir, et d'homme, et de mari.
Merci.
Peut-on savoir à quel sujet ma femme est devenue actrice et poète, peut-être, ou collaboratrice de quelques auteurs fameux? J'ignorais jusqu'ici que l'art vous eût jamais causé quelques soucis. Pardon. Et la charade?
Est une comédie.
Bravo! Vous chaussez donc le soc de Thalie. Alors, si ce n'est point être trop indiscret, pourrais-je, en vous priant, connaître le sujet?
Une églogue.
Parfait! C'est une bucolique. Et l'avez-vous choisie avec ou sans musique?
Sans musique.
Tant pis!
Et pourquoi, s'il vous plaît?
À mon avis, du moins, c'eût été plus complet. Je suis très pastoral. Je trouve que, sur l'herbe, un petit air de flûte est d'un effet superbe. Et puis, tout vrai berger, étendu sous leurs mots, ne doit chanter l'amour qu'avec un chalumeau. C'est l'accompagnement forcé de toute idylle. L'usage en est resté depuis le doux Virgile.
Je ne vous savais point si pétillant d'esprit. J'avais jusqu'à ce jour méconnu mon mari. À présent, je voudrais vous faire prendre un rôle. En marquis Pompadour, vous serez vraiment... drôle.
Madame, c'est vrai? Qui pourrait faire bien une chose à laquelle on n'entend juste rien?
Vous en voulez beaucoup à cette comédie?
Certes. Je n'aime pas les bergers d'Arcadie. Et puis, je veux laisser à chacun son métier. Tout le monde, il est vrai, pourrait être portier. Mais acteur? Oh non, pas! Cela est autre chose. Vous ignorez comment on rit, on marche, on cause, quand on a, par hasard, un public devant soi. Et votre grand naturel est de mauvaise aloi.
Je sais depuis longtemps cette vieille rengaine.
Le vrai dans un salon est du faux sur la scène. Et le vrai sur la scène est faux dans un salon. L'actrice dans le monde a souvent mauvais ton, je vous l'accorde. Mais quand vous prenez sa place, votre plus doux sourire a l'air d'une grimace.
Et vos charmants conseils ont l'air impertinents. Est-ce fini?
Non, pas encore. Maintenant, vos pièces de salon, fausses et précieuses, me portent sur les nerfs et me sont odieuses. Voilà mon sentiment. Quant au petit monsieur frisé, la bouche en cœur, et roide comme un pieu, débitant gauchement de fades sucreries, autant fait par le ciel pour ses galanteries qu'un âne pour chanter une chanson d'amour, commerçant le matin et le soir troubadour, qui, calculant le prix ou des draps ou des toiles, répète vaguement des couplets aux étoiles et quitte son comptoir d'un petit air léger pour prendre la houlette et devenir berger, c'est un saut le matin et le soir c'est un cuistre, dont le rire est stupide et la grâce sinistre. Encore, eussiez-vous pris quelques morceaux plaisants qui, sans prétention, pourraient être amusants? Mais choisir une églogue? Et quelle mise en scène! C'est dans ce pré fleuri où serpente la scène? Ce salon représentant un champ, frais et coquet? Pour plus de ressemblance, on y pose un bouquet. À droite est une dame habillée en bergère. Oh, elle écoute, effeuillant un rameau de fougère. Un monsieur costumé? C'est un petit marquis. Il porte lourdement un habit rose exquis. S'incline, et dans la main, il tient une houlette qu'il présente à la dame avec un air fort bête. Trois tabourets épars simulent les brebis. Tout est faux. Le décor, les gens et les habits. Est-ce vrai? Ce dindon, enfin, qui fait la roue, doit vous baiser la main quand ce n'est point la joue. Et par cette faveur, son orgueil attisé à d'autres libertés se croit autorisé. Puis ces longs tête-à-tête, où l'on feint la tendresse, où l'honnête femme a des rôles de maîtresse, sont un mauvais exemple aux gens de la maison.
Vraiment, je n'aurais pas prévu cette raison. Mais comme je veux être une femme soumise, que je ne veux pas avoir ma vertu compromise aux yeux de Rosalie et de votre cocher, je renonce à jouer.
Bon, pourquoi vous fâchez?
Rien que ce tête-à-tête, à présent, m'épouvante. Personne encore sur moi n'a rien dit, je m'en vante. Songez, si le concierge apprend par un valet qu'un jeune homme à mes pieds fut venu, qu'il me parlait, d'amour et qu'il avait la perruque poudrée. La nouvelle en ira par toute la contrée. Le facteur, en donnant ses lettres chaque jour, distribuera ce bruit aux portes d'alentour. Il en grossira de la loge aux mansardes et tout du balayeur de la rue aux poissardes qui roulent leurs voitures avec les « ce qu'on dit » me toiseront des pieds au front d'un air hardi.
Voyons, si j'ai tenu quelques propos maussades, ce n'était, après tout, qu'une simple boutade.
Je sais que nous devons tout supporter, soupçons, injures, mots blessants de toutes les façons. Nous devons obéir à la moindre parole, être humble et toujours douce, c'est notre rôle. Je le sais, mais enfin, ma douceur est à bout. Nos maîtres, nos maris, qui se permettent tout, rôdent autour de nous ainsi que des gendarmes, nous accusent sans cesse, espionnent.
Pas de larmes, je t'en prie. Et faisons la paix. Pardon. C'est vrai, je fus brutal et sot. Je l'avoue, et suis prêt à tout ce qu'il faudra pour que tu me pardonnes. Tiens, je te baisse les mains. Comme elles sont mignonnes! J'y veux mettre ce soir deux gros bracelets d'or, mais toujours un. M'as-tu pardonné?
Pas encore.
Non? Mais bientôt.
Qui sait?
Monsieur René Lapierre.
Ah! Votre partenaire. Au revoir, beau marquis.
Monsieur, pour vous servir.
Le costume est charmant et vous s'y à ravir.
Au moins, avez-vous bien retenu votre rôle?
Je n'en oublierai point une seule parole.
Alors nous commençons, puisque vous êtes prêts. Je suis seule d'abord. Le marquis apparaît. Sans me voir, il arrive au milieu de la scène. Pendant quelques instants, il rêve et se promène. Et puis il m'aperçoit. Nous y sommes?
J'y suis.
Soyez plus libre, plus naturel.
Je ne puis. J'en suis fort empêché, car mon habit me gêne.
Votre rapière va s'échapper de sa gaine. Vous paraissez épais et lourd. Recommençons. Vous n'avez pas besoin de toutes ces lassons, monsieur.
Je voudrais bien vous voir prendre ma place, madame. Comment donc voulez-vous que je fasse?
Comme si vous étiez un marquis naturel, un vrai marquis. Quittez cet air trop solennel et marchez simplement comme un monsieur qui passe. Relevez quelque peu votre épée et avec grâce. Une main sur la hanche et puis promenez-vous, sans avoir tant de plomb fondu dans les genoux. Vous êtes empesé comme un dessin de mode.
Si je ne portais point cet habit incommode...
Vous me faites l'effet d'un marquis croque-mort. Soyez donc gracieux.
Est-ce bien?
Pas encore. Que l'homme est emprunté. Dire que toute femme, j'entends femme du monde, est actrice dans l'âme. La femme de théâtre est gauche et ne sait pas sourire, se lever, s'asseoir ou faire un pas sans paraître tragique. Un rien les embarrasse. Cela ne s'apprend point. C'est affaire de race. On peut acquérir l'art, mais non le naturel. Par l'étude, on devient ce que fut la Rachel, qui demeura toujours roide ou prétentieuse, souvent fort dramatique et jamais gracieuse. Moi, j'ai joué deux fois et j'eus un succès fou. J'avais une toilette exquise, un vrai bijou. On m'applaudit, j'étais comme une frénésie. J'ai cru que je ferais mourir de jalousie Madame de Lancy qui jouait avec moi. Je disais quelques vers, je ne sais plus trop quoi... Quelque chose de drôle et qui me fit beaucoup rire. Mais la deuxième fois, je n'avais rien à dire. Je faisais une bonne apportant un plateau où devait se trouver un verre rempli d'eau. J'apportais le plateau, mais j'oubliais le verre. L'acteur me regarda d'une façon sévère. Le public se tordait. Alors je m'aperçus que j'avais le plateau voulu, mais rien dessus. Ma foi, je n'y tins pas. J'ai ri comme une folle. Le monsieur n'a pas pu reprendre la parole. Tant on était joyeux, on a ri tout le temps. Mais que faites-vous donc? Monsieur, je vous attends.
Madame, j'écoutais.
C'est moi qui vous écoute. Vous n'avez pas de temps à perdre. Allons, en route. Eh bien...
Je ne sais plus du tout le premier vers.
Monsieur, vous commencez à m'agacer les nerfs.
Quand j'aurai le premier, tous viendront à la suite.
Certes, ils viendront à moins qu'ils ne prennent la fuite.
Comme on oublie. Allons, soufflez-moi rien qu'un peu.
Ah, puissais-je en soufflant. Rallumez votre feu. Je te vis, charmante bergère.
Je te vis, charmante bergère, assise un jour sur la fougère. Oui, là-bas, je te vis un jour, et tout mon cœur brûla d'amour. Non point de flamme passagère, qui s'éteint trompeuse et légère, c'est d'un indestructible amour que je brûlais, douce bergère, quand je te vis sur la fougère. C'est bien ?
C'est bien n'est pas au rôle, assurément. Et puis ce serait bien si c'était autrement.
Pourquoi cela ?
Pourquoi vous êtes détestable, comme un petit garçon qui récite une fable ? Votre voix, votre corps, vos gestes sont en bois. Avez-vous aimé ?
Moi ?
Vous ?
Certes, quelquefois.
Eh bien, racontez-moi cela.
Quoi ?
Vos conquêtes, car je ne vous vois pas faisant tourner les têtes.
Je ne dirai point si j'ai réussi.
Toujours ? Non, vous ne devez pas être heureux en amour. Eh bien, nous allons voir ce que vous savez faire. Supposons qu'une femme, habile en l'art de plaire, se trouve en tête-à-tête avec vous. Son esprit, dès longtemps, attira votre cœur et le prit. Supposons que je sois cette femme charmante. Vous voulez exprimer l'amour qui vous tourmente. Nous sommes tous deux seuls. Allez. Eh bien, c'est tout. On vous peut sans péril écouter jusqu'au bout. Alors, changeons de rôle. Et soyez la bergère. Je vais improviser. Asseyez-vous, ma chère. Je cours après le bonheur. Plus je cours, plus il va vite. Mais ce bonheur qui m'évite, dînait-il pas dans ton cœur ? Je cherche la douce fièvre, mais elle me fuit toujours. Cette fièvre des amours, n'est-elle pas sur ta lèvre ? Pour les trouver, j'ai dessein de baiser, ô ma farouche, et ton âme sur ta bouche, et ton doux cœur sur ton sein. Il l'embrasse. Êtes-vous une bergère en Sèvres ? Troublez-vous qu'un soupir s'échappe de vos lèvres. Baissez les yeux, tremblez, pâlissez, rougissez. Ça, nous ne ferons rien. Cher monsieur, c'est assez.
Je suis mauvais. La faute en est à mon costume. Si j'étais en habit tout simple, je présume que je saurais sans peine exprimer mon amour. À l'époque fleurie où régnait Pompadour, presque autant que la tête on poudrait la pensée, et la phrase ambiguë, avec soin cadencée, semblait une chanson aux lèvres des amants. Ils avaient en l'esprit encore plus d'ornements que de rubans de soie à leur fraîche toilette. L'amant était léger, l'amante était follette. Ils ne se permettaient que de petits baisers pour ne point faire tort à leurs cheveux frisés. Et gardaient tant de grâce et de délicatesse, qu'un mot un peu brutal eût rompu leur tendresse. Mais aujourd'hui, qu'on a décousu pour toujours la pompe des habits et celle des discours, nous ne comprenons plus ces futiles manières. Et pour se faire aimer, il faut d'autres prières, plus simples, mais aussi plus ardentes.
Il faut, cher monsieur, pour jouer un rôle sans défaut, se mettre avec l'habit, la peau du personnage, sentir avec son cœur, penser selon son âge. Aimer comme il aimait.
Mais moi, si, j'aime aussi.
Vous n'aimez pas.
Pardon, j'aime.
Mais non.
Mais si.
Alors vous avez dû lui dire, je vous aime. Rappelez-vous le ton. Et puis faites de même.
Non, je n'ai point osé lui dire.
C'est discret. Vous avez donc pensé qu'elle devinerait.
Non.
Mais qu'espérez-vous alors ?
Moi, rien, je n'ose.
C'est faux. Les hommes toujours espèrent quelque chose.
Je ne veux qu'un sourire, un mot, un bon regard.
C'est trop peu.
Rien de plus, à moins que le hasard un jour plaide ma cause.
Oh, le hasard ne plaide. N'oubliez point ceci, que pour celui qui l'aide.
Je souffre horriblement de n'oser point parler. Son œil, quand il me fixe, a l'air de m'étrangler. J'ai peur d'elle.
Mon Dieu, que les hommes sont bêtes. Savez-vous point encore, ignorant que vous êtes, que ces compliments-là ne nous blessent jamais ? Vous verriez si j'étais un homme et si j'aimais. Je n'autorise pas ces manières trop lestes. La parole suffit, monsieur. Gardez vos gestes.
Certes, j'étais timide et grotesque. Pourquoi ? Je craignais que mon cœur éclatât malgré moi. et qu'au lieu des fadeurs de ses propos frivoles, ce cœur qui débordait ne dit d'autres paroles. Ah, vous l'avez permis, madame, il est trop tard. Vous n'avez donc pas vu briller dans mon regard, quand il était sur vous, des éclairs de folie, ni trouvé sur ma face égarée et pâlie, ces sillons qu'ont creusé les tortures de mes nuits. Vous n'avez donc pas vu que souvent je vous fuis, qu'un frisson me saisit quand votre main m'effleure, et que si j'ai perdu la tête tout à l'heure, c'est qu'en me regardant vos lèvres, on sourit, que votre œil m'a touché, marqué, brûlé, meurtri. Ainsi qu'un malheureux, monté sur une cime, se sent pris tout à coup des fièvres de l'abîme, et se jette éperdu devant la tête en feu. Ainsi, quand je vous regarde au fond de votre œil bleu, le vertige me prend d'un amour sans limite. Tenez, sentez. Sentez-vous pas comme mon cœur palpite.
C'est trop, on vous croirait la cervelle égarée, et la diction même a l'air exagérée.
Oui, c'est vrai, mon esprit s'égare, j'en suis fou. Quand on lâche un cheval la bride sur le cou, il s'empare et voilà ce qu'a fait ma pensée. Jusqu'ici, je l'avais tenue et terrassée, mais elle a, près de vous, des élans trop puissants. Je ne puis exprimer les ardeurs que je sens. Oui, je vous aime, et j'ai la lèvre torturée du besoin de toucher votre bouche adorée. De mes bras, malgré moi, s'ouvrent pour vous saisir. Tant me pousse vers vous d'un immense désir.
Je me fâche, cessez cette plaisanterie.
Je vous aime. Je vous aime.
Assez ou je crie ?
Pardon.
Relevez-vous, monsieur, je vais sonner.
Mon Dieu, vous ne pourrez jamais me pardonner.
Bravo ! Bravo, très bien. Vous jouez à merveille. Je ne vous croyais pas une chaleur pareille. Mes compliments, monsieur. C'était très bien. Et j'avais la sotte intention de vous trouver mauvais. Oh, mille fois pardon. Vous êtes admirable. Et vous avez surtout cet art incomparable d'être si naturel, si juste, si vivant, que ce morceau d'amour est vraiment émouvant. Tout est parfait. La voix, l'expression, le geste. Le difficile est fait maintenant, et le reste viendra tout seul. Pourtant, il faut savoir comment. Vous vous en tirerez juste au dernier moment, car cela va toujours très bien quand on répète. Mais au jour de la première, on perd un peu la tête.
Mon mari, mon ami, demeurez tranquille sur ce point, car si monsieur la perd, je ne la perdrai point.
C'était une répétition de Guy de Maupassant, interprété par Atrebat Théâtre de Savy Berlette avec
Maxence,
Lily,
Michael,
Jean-François.
Cette pièce radiophonique que se termine cette émission Décibel de ce soir. Merci Jean-François de m'avoir accompagné durant cette demi-heure.
Merci Honorine, bonne soirée à tous.
Bonne soirée, salut.
It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?